Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Constance Rivière, l'autrice de L'Incendiaire. J'ai rencontré Constance Rivière, l'autrice de L'Incendiaire, avec Phébé, une élève de La Nouvelle Chance. Elle n'a pas posé de questions, mais nous avons beaucoup échangé toutes les deux sur notre compréhension commune de ce magnifique roman.
Bah écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis avec Phébé, comme je vous l'ai dit. Comme je suis un peu un boulet, je n'ai qu'un micro, donc de temps en temps, je lui passerai si elle a des questions, à vous poser. On a eu exactement toutes les deux, alors que nous sommes d'âge extrêmement différent, et aussi on se connaît que depuis quelques semaines, exactement la même réaction, c'est de trouver votre livre très beau, très bien écrit, et en même temps d'avoir l'impression d'avoir compris quelque chose à notre monde d'essentiel. Voilà, donc on voulait vous
Merci, je ne peux pas avoir de meilleurs compliments, donc ça me fait très très plaisir.
Donc ça vient à la fois d'une élève et d'une enseignante, donc voilà. Donc c'est les échanges qu'on a eus quand Phébé a fini de lire votre livre. Voilà.
D'accord, génial, merci beaucoup.
Donc, le premier personnage de votre roman est Cassandre. C'est aussi la première phrase de votre roman. Il faudrait pouvoir imaginer Cassandre heureuse. Pourquoi est-ce que vous commencez par ce personnage mythologique ?
Alors, je commence non seulement par le personnage mythologique, mais aussi par cette idée que peut-être Cassandre, avant d'être cette figure emportée par ses visions et délaissée par le reste du monde, ne croyant pas ses visions, a été quelqu'un comme vous et moi, ou en tout cas quelqu'un qui a aussi eu une enfance et aussi eu du bonheur. Et je pensais que c'était très important de se dire que les personnages mythologiques ont aussi une forme de réalité. Et donc Cassandre, elle est extrêmement fondamentale parce qu'elle représente pour moi encore aujourd'hui la figure de l'impossibilité d'écouter la parole d'une femme qui dérange. Et donc, il y a une récurrence de Cassandre dans des figures beaucoup plus contemporaines. Mais Cassandre, elle est aussi celle qui existait avant ces prophéties. Elle était la fille du roi, elle était celle dont tous les hommes tombaient amoureux, elle était une femme forte et très respectée avant la malédiction et la malédiction qui lui vient d'un autre homme, enfin d'un dieu.
Oui, donc en fait, le conditionnel, c'est pour dire que ce qu'on connaît d'elle, c'est uniquement le malheur.
Exactement. Et je pense que c'est un peu un des drames de ceux qu'on appelle les lanceurs ou les lanceuses d'alerte, mais plus généralement de ceux qui essayent de parler et qui ne sont pas entendus. C'est qu'à partir du moment où leur parole est rejetée, ils apparaissent comme fragiles ou décalés, et on oublie qu'ils sont d'abord des personnes qui souvent d'ailleurs ont eu beaucoup de force et de courage. Et c'était ça aussi que je voulais réactiver, cet imaginaire de la force et de la légitimité.
Et ensuite, donc ce qui est appelé le premier chapitre, on se retrouve dans des lieux avant de rencontrer le personnage principal qui est Cassandre en fait, une Cassandre d'aujourd'hui. On se retrouve à Trouvise. Alors j'avoue que j'ai tellement cru à ce lieu que je l'ai googlisé. Et il n'existe pas. Alors, comment est-ce que vous avez choisi ce nom très réaliste ?
Alors, c'est effectivement, c'est une ville imaginaire. Je me suis inspirée de faits réels. Je me suis beaucoup documentée, y compris en y allant, dans des usines de produits chimiques, puisque l'essentiel de l'intrigue se passe dans une usine de produits chimiques, dans le centre de la France, et des accidents, des départs de feu, des petites catastrophes, en quelque sorte, dans des usines de produits chimiques. Il y en a eu, en fait, plus qu'on ne le sait, et souvent, alors même qu'il y avait des indices ou des informations qui auraient permis de les éviter. Mais en même temps, je ne voulais pas l'inscrire dans un fait réel plutôt qu'un autre. C'est un travail de construction à partir d'une documentation qui est plus large. Et Trouvise, ça répond pour moi à un double imaginaire. D'abord, quand même, puisqu'on a fait référence à Cassandre juste avant, à la ville de Troyes, puisque Cassandre, elle est d'abord connue pour avoir alerté sur le fait que les Grecs se cachaient dans le cheval qui était devant la ville de Troyes et que si les Troyens laissaient rentrer le grand cheval en bois, les Grecs allaient venir détruire la ville. Donc, il y avait ce lien entre Troyes et Trouvise. Et puis, cette idée aussi... d'une ville un peu perdue, un peu lointaine, que le patron de l'usine de produits chimiques aimerait quitter un jour.
Oui, moi ça m'a fait penser à la Normandie et puis clairement au mot trou, quoi. Enfin, le trou perdu.
C'est un peu, il y a un peu cette imaginaire du trou perdu, oui, et incontestablement.
Alors, la première fois qu'on voit Alexandra, on n'a pas son nom en fait. C'est puisque le roman commence par l'incendie. Hein. Vous la décrivez ainsi, une silhouette blanche aux cheveux orange se trouvait dissimulée au couvert d'un arbre, fascinée elle aussi par cette vision terrifiante qui lui était déjà apparue en songe. C'est après qu'on aura son prénom. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de la présenter de cette manière, au milieu du feu ?
Le roman commence par l'incendie et donc on sait, quand on revient 9 mois plus tôt au moment où Alexandra arrive dans cette usine, on sait que l'usine va prendre feu. Et c'était important pour moi, pour créer la tension dramatique, de montrer que toutes ces alertes vont conduire à un feu que le lecteur sait devoir advenir, et pourtant, il est pris aussi par une forme d'empathie avec tous ceux qui lui demandent de se taire. Et c'est cette ambivalence-là que je voulais poser, avec quand même le mystère de cette silhouette blanche, dont j'imagine le lecteur devine assez rapidement qu'il s'agit d'Alexandra, mais je ne dis pas, moi, que c'est Alexandra, cette silhouette blanche, dans les premières pages du livre. On le comprend plus tard.
Oui, on comprend plus tard que c'était elle, justement, grâce aussi à sa chevelure rousse, qui renvoie aussi à toute une mythologie, hein, celle de la femme impure, celle qui est du côté du diable. Et je pense que c'est un choix voulu.
En fait, c'est un choix qui est lié. Alors, Cassandre, dans les représentations qu'on a, qui sont évidemment des représentations complètement a posteriori et fantasmées, elle est souvent représentée avec une chevelure importante et dans des teintes qui sont plutôt châtain roux. Par ailleurs, la couleur des cheveux, le roux, est souvent associée à l'imaginaire aussi des sorcières, qui sont aussi ni plus ni moins des femmes dont on voulait faire taire pour plein de raisons. Et puis, il y avait aussi cette idée d'une très grande beauté un peu intimidante qu'on associe à l'imaginaire de la femme rousse. C'est les peintures de Klimt. Il y a toute une idée de la femme séductrice et cette ambivalence-là et aussi ce qui se retourne contre elle.
Et donc, c'est une écriture après la crise, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez par l'incendie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de remonter, et ça n'enlève rien au fait qu'on est pris, hein, comme dans un thriller, dans ce récit, pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer par la fin, finalement ?
Parce que pour moi, le suspense ne devait pas être sur est-ce que ce qu'elle dit va conduire à une catastrophe, mais la tension dramatique, elle devait être sur pourquoi est-ce que personne ne l'écoute alors que ça va conduire à la catastrophe. C'est-à-dire que j'avais envie que le lecteur soit pris presque de colère et d'agacement à l'idée que tous ces gens-là autour pourraient éviter ce qui va arriver et ne le font pas. Et puis après, il y avait une dimension aussi de la tragédie, de la forme du destin. Et d'ailleurs, le lanceur d'alerte est la forme presque parfaite du tragique, puisqu'il sait ce qui va advenir, il connaît le futur, et pour autant, tous les éléments mécaniquement s'enclenchent pour arriver à cette fin tragique sans que rien jamais ne puisse l'arrêter.
Alors oui, justement, par exemple, page 117, il y a un passage que je trouve très très beau. Vous écrivez « Arrivé à ce point de l'histoire, on aimerait la prendre dans nos bras et lui dire d'arrêter, de se sauver, qu'elle ne pourra pas gagner, qu'il n'y a pas de place pour la vérité, que l'usine brûlera de toute façon et qu'elle seule a tout à perdre. Mais l'histoire a sa logique propre et nous ne pouvons guère que la raconter le plus fidèlement possible. Je trouve que vous avez réussi quelque chose à faire comprendre ce que c'est que la tragédie moderne, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment on sait et personne ne veut arrêter ce qui va advenir.
Bah, vous le dites mieux que moi, donc je peux pas dire autre chose que ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire, c'est ce tragique de l'enchaînement qu'on ne peut pas arrêter.
Alors il y a un mot qui a été employé par la fille de François Bayrou à propos de Betaram. Elle a employé un mot que j'ai trouvé intéressant, qui est le verbe intriqué. Et j'ai trouvé que c'est ce que raconte aussi votre récit, c'est-à-dire l'intrication, c'est-à-dire toute personne ne, en fait, c'est pas qu'ils ne la croient pas finalement, c'est qu'ils ne veulent pas changer quelque chose, ils ne veulent pas arrêter l'incendie qui va venir finalement.
Souvent, quand un drame survient, c'est exactement ce que décrit ce mot, effectivement, c'est la conséquence de beaucoup de choses différentes. C'est la conséquence de personnes qui peuvent être malveillantes dans leurs actions. En l'occurrence, le patron de l'usine est quelqu'un qui sait pertinemment et qui est malveillant. Mais c'est aussi la somme de beaucoup de lâchetés, de beaucoup de regards détournés, de beaucoup aussi de peurs sincères. Et c'est ça que je voulais montrer. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté la bonne Alexandra qui seule se bat et de l'autre des gens qui seraient méchants et ligués contre elle avec une volonté de la détruire. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas voir, de gens qui sont empêtrés dans leurs propres difficultés, de gens qui ont peur aussi de se séparer de ce collectif qui leur demande de fermer les yeux.
Oui, et justement, j'ai trouvé que les scènes avec le patron et en particulier les scènes qui sont pour moi des scènes d'agression sexuelle, même pour elles, Elle n'y croit pas que ce sont des scènes d'agression sexuelle. J'ai trouvé qu'il y avait aussi autre chose là que vous racontiez sur l'image qu'on a de la séduction.
Oui, je pense que une des choses qui était très importante pour moi, c'était de faire le lien entre cette parole qu'on veut écraser et les violences et les mécanismes de domination sur le corps des femmes dans la société. Et je dirais que le point de départ romanesque et tragique en quelque sorte du livre, pour moi, a été de découvrir que la malédiction de Cassandre était liée à une violence qui lui est faite par Apollon, puisque Apollon cherche à la séduire. Elle veut être prophétesse, il sait que c'est son vœu le plus cher, et il lui propose un pacte. Il lui dit « Je peux te donner ce don de prophétie que tu appelles de tes vœux, mais en échange, tu te donneras à moi ». Et Cassandre d'abord accepte, mais à partir du moment où elle a ce don de prophétie, c'est-à-dire à partir du moment où elle sait ce que ça signifie que de donner son corps, elle se refuse à lui. Et lui, fou de rage, l'attrape physiquement et lui crache dans la bouche en lui disant « je ne peux pas t'enlever ce don, mais à partir de maintenant, tout ce que tu diras, plus personne ne pourra le croire ». Et tout d'un coup, ce crachat qui existe dans la mythologie et dont on ne parle jamais, m'a paru expliquer aussi une des raisons pour lesquelles on veut à tout prix faire taire les femmes quand elles dérangent.
Oui, c'est même plus. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est sont des passages très très forts qui m'ont bouleversée, qui m'ont interrogée, parce qu'effectivement, cet homme est aussi entre guillemets séduisant, quoi, et il séduit tout le monde.
Oui, et je pense que l'autre chose que vous dites, c'est que vous disiez tout à l'heure sur le crachat, c'est évidemment pour moi c'est une agression sexuelle. Et en même temps, il était important qu'Alexandra se dise, mais au fond, non, c'est pas vraiment ça. C'est pas. Et donc, ce doute-là qu'on peut avoir de savoir ce qu'est une agression ou ce que n'est pas une agression sexuelle, il a été très longtemps et encore aujourd'hui utilisé contre les femmes pour essayer de minimiser les violences qui peuvent être faites à leur corps.
Je voudrais parler d'une autre figure féminine, c'est la mère d'Alexandra. Elle est vraiment quelqu'un qui participe finalement à ce qu'on pourrait appeler le patriarcat, quoi, à l'écrasement de sa fille.
Tout à fait. Je pense que la mère est une femme très très dure. J'écris aussi qu'elle n'a pas eu une vie facile, donc elle a cette dureté-là et quelque chose de construit. Mais il me semblait important de ne pas laisser penser que le patriarcat est uniquement une affaire d'hommes. C'est une affaire d'ordre social qui a eu beaucoup de complices et de solidarité, y compris féminine.
Alors, c'est intéressant parce que il y a de multiples jeux dans votre récit. On ne se perd pas du tout, hein, parce qu'on sait qui sont les jeux qui parlent. Mais à la fin, il y a des questions qui sont vraiment intéressantes une fois qu'on sait tout. Faut-il ou on revient encore sur l'histoire avec différents points de vue. Faut-il accorder une importance particulière au fait que Cassandre, Alexandra, Maureen et tant d'autres soient des femmes? Il existe de nombreux hommes qui ont fait le même parcours et subi la même violence, et pourtant le lanceur d'alerte est, dans sa figure héroïque, par essence une femme. La justice est une femme aussi, d'ailleurs. Sur cette histoire de femmes héroïnes, il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais finalement, je me dis, le lanceur d'alerte n'est pas considéré comme un héros, en fait. Dans notre. Puisque moi, j'ai découvert Cassandre vraiment grâce à vous, parce que je la voyais au contraire comme une folle.
C'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est réhabiliter la figure de Cassandre. Pendant longtemps, d'ailleurs, le titre de travail du livre était Cassandre avait raison. Et j'ai été très frappée par cette distorsion, en quelque sorte, entre l'histoire de Cassandre, qui est quand même d'abord l'histoire d'une femme qui essaye d'alerter sur des dangers réels et que personne n'écoute. Et si on l'avait écoutée, peut-être que les dangers ne se seraient pas matérialisés. Donc, elle est la personne qui a le courage de dire et d'essayer de se mettre en travers de la catastrophe. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle des Cassandres, on en parle effectivement, comme vous le dites, comme de folles, de chieuses, d'emmerdeuses qu'il faudrait mettre de côté pour pouvoir continuer à vivre tranquille. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société où encore aujourd'hui, on pense qu'il faut mieux vivre tranquille et laisser la catastrophe arriver plutôt que d'écouter ceux qui essayent de nous alerter pour améliorer l'état du monde?
Oui, elle n'est pas considérée comme étant quelqu'un de fort, en fait. Le lanceur d'alerte, enfin la lanceuse d'alerte, on va l'appeler comme ça, n'est pas considérée comme quelqu'un de fort.
Non, mais en fait, le problème, c'est que le lanceur d'alerte, il est regardé et perçu par la société après qu'il a été abîmé par l'alerte qu'il a essayé de lancer. Et donc, sa parole, elle est déjà rendue fragile. Mais souvent, en tout cas, moi, tous les lanceurs et les lanceuses d'alerte que j'ai rencontrés sont des personnes extrêmement fortes, solides, courageuses. D'ailleurs, sinon, ils ne se seraient pas lancés dans cette aventure qui est quand même à un moment de pointer du doigt un dysfonctionnement collectif et d'accepter de ne pas être d'accord avec le reste du monde. Il faut beaucoup de force et de courage pour ça.
Justement, vous avez travaillé, vous avez écouté la parole, vous, et recueilli la parole de lanceur d'alerte. Est-ce que ce livre, pour vous, n'est pas une espèce de réparation pour essayer de faire entendre quand même leur voix?
En tout cas, c'est une tentative modeste d'essayer de justement d'alerter sur nos propres surdités. À ma manière, je pense que le drame des lanceurs d'alerte, c'est qu'on les laisse à leur solitude. J'avais envie aussi, à travers ce livre, d'appeler les lecteurs à créer une sorte de chaîne d'écoute solidaire pour briser cet isolement dans lequel sont laissés ceux qui essayent en fait d'améliorer la société sans aucun intérêt pour eux la plupart du temps.
Vous dites, vous écrivez, je crois c'est à la fin que vous dites que c'est une histoire qui vous a hanté, c'est pour ces raisons-là ?
Oui, sans doute que d'ailleurs, en tout cas moi je pour moi, la littérature est un espace dans lequel j'essaye d'avancer sur des sujets qui me semblent fondamentaux et qui m'obsèdent. Les romans sont aussi le lieu du dépouillement de l'obsession. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais où tout d'un coup, à travers l'histoire, à travers la richesse infinie de la langue française, à travers aussi le temps qu'on peut s'autoriser pour poser des mots justes sur des sujets difficiles, on peut essayer de comprendre pourquoi on est obsédé par un sujet qui souvent est mis de côté ou en tout cas pas très bien traité.
Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour votre lecture et pour vos questions très, très fines qui m'interrogent encore.
Lecture d'un extrait qui se situe vers la fin du roman. Faut-il accorder une importance particulière au fait que Cassandre, Alexandra, Maureen et tant d'autres soient des femmes ? Il existe de nombreux hommes qui ont fait le même parcours et subi la même violence. Et pourtant, le lanceur d'alerte est dans sa figure héroïque, par essence, une femme. La justice est une femme aussi. D'ailleurs, j'ai interrogé des chercheurs qui se sont intéressés à la spécialité de la parole féminine quand il s'agit de lancer une alerte, c'est-à-dire de dénoncer un dysfonctionnement du système. Ils, elles surtout, établissent un lien entre la brutalité de la réaction face à ces prises de parole intempestives et l'accès des femmes à des positions de pouvoir dans certains secteurs, comme celui de la finance. Les femmes ne peuvent approcher du pouvoir qu'à pas feutrés, sans se mêler. Sinon, elles s'en font exclure sans ménagement. Ce n'est évidemment pas un phénomène récent. Depuis l'Antiquité, les femmes sont en retrait des histoires quand elles y sont. Et lorsqu'elles veulent s'y faire une place, héroïnes tragiques, sorcières ou justicières, quand elles cherchent à démêler les fils de l'embrouille, à déchirer le rideau pour découvrir ce qu'on leur cache, avec des règles, des lois, des guerres, quand elles avancent vers la connaissance et cherchent à la partager, le réflexe est toujours le même, les faire taire, à tout prix, au prix de leur vie, si nécessaire. Dans les mythes comme dans l'histoire, les grandes figures de révolte sont souvent des femmes. Antigone, ou la révolte morale, elle se pend après avoir été condamnée à être enfermée vivante dans un tombeau. Cassandre, ou la révolte intellectuelle, elle meurt assassinée par l'épouse de son amant. Cléopâtre, ou la révolte politique, elle se suicide pour ne pas être exhibée comme un trophée à Rome. Marguerite Porret, ou la révolte religieuse, elle est brûlée vive à Paris en 1310 avec son livre dans lequel elle avait osé prôner une relation directe à Dieu, le miroir des âmes simples. Jeanne d'Arc, ou la révolte guerrière, elle aussi brûlée vive en 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen. Olympe de Gouges, ou la révolte juridique, elle meurt guillotinée en 1793 à Paris. Les lanceuses d'alerte contemporaines sont, d'une certaine manière, les héritières de ces révoltés. Elles mettent le doigt dans la plaie et elles appuient. On ne les tue plus. Mais, face à elles, il y a le soupçon entretenu par ceux qui, n'aimant guère les contre-pouvoirs, renversent les codes de l'histoire comme ceux de la morale afin de faire passer les alertes pour de la délation. Si je résume pour cela, dénoncer un risque, ce serait la même chose que dénoncer des juifs pendant l'occupation. Écrit ainsi, On mesure bien l'absurdité du raisonnement. Et pourtant, récemment, un avocat devenu ensuite ministre de la Justice déclarait publiquement « De nos jours, les délateurs ont été anoblis. On les appelle des lanceurs d'alerte. C'est plus chic, non ?» Mais les lanceurs d'alerte, ce sont des délateurs. Et les délateurs, ce sont des balances. Des emmerdeurs, donc. Et des balances. C'est avec ces deux boulets au pied que doivent tenter d'avancer ceux, celles, qui prennent le risque de parler. Alourdis de ces poids, les lanceuses d'alerte prennent l'eau avant même d'avoir ouvert la bouche.
J'ai rencontré Constance Rivière à Faites Lire le 4 octobre 2025, après l'avoir entendu répondre aux questions d'un de mes collègues de la FRAMA, la Fédération Régionale des Radios Associatives Maine-Anjou. Elle a écrit sur mon livre, en dédicace, « Chère Sandrine, merci de votre écoute et de votre amour des livres. Je suis heureuse que vous partiez à la rencontre d'Alexandra. Vive Cassandre, vive Antigone et vive les mythes. Amitié. Constance. »
C'était ma rencontre avec l'incendiaire de Constance Rivière.